Bienvenue à cette deuxième rencontre de la saison dédiée aux écrivains de la sélection du prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2018. Alors l'homme que vous êtes venu écouter ce matin est aussi passionnant que passionné. Alors je le côtoie depuis bien des années. Et tout ce que je l'ai vu entreprendre, tout ce que je l'ai vu faire, réaliser, imaginer, c'est avec la même passion, la même conviction, que ce soit de l'édition, en compagnie évidemment de Vladimir Dimitrievitch à l'enseigne de l'âge d'homme, ou en solo, en créant ses éditions Xenia, que ce soit de la traduction du serbe, de l'anglais ou même du russe, hein, en traduisant par exemple l'opposant soviétique Alexandre Zinoviev. Que ce soit de la photographie, en tenant, par exemple, un journal intime photographique depuis l'âge de 16 ans. Que ce soit du journalisme d'opinion, dans Le Nouvelliste, le journal de Franz Weber, ou bien encore en lançant Antipresse, sa lettre d'information numérique dominicale, en passe d'ailleurs de passer sur papier. Que ce soit en publiant des déclarations d'amour à son valet adoptif, comme avec cet épatant livre intitulé « Valet mystique » paru il y a quelques années et que nous avons la chance d'ailleurs de vous proposer encore aujourd'hui. Que ce soit de l'écriture romanesque avec un premier roman, il y a 3 ans, c'était « Le miel », publié illico par Gallimard, tout comme ce deuxième roman paru il y a quelques mois, donc « Le rayon bleu ». Slobodan Despot ne fait rien à moitié, il fait tout à fond, avec le même brio de surdoué, la même combativité et, pour ne rien gâcher, le même charisme. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Slobodan Despot. Voilà. Voilà. Alors, Slobodan Despot, bonjour, bienvenue.
Bonjour, mais je ne peux plus rien dire après ça, moi.
Alors, n'est pas né celui ou celle qui coupera la chic à Slobodan Despot, donc tout ça, c'est du bluff.
Ah bon, ça... Non, pas du tout.
Voilà. Pas quoi... bon, alors, quoi, bienvenue, il y a même une chaise ou un tabouret haut qui peut servir.
Voilà.
D'accord, merci. Voilà. Alors, voilà. Oui, alors on va pas faire durer le suspense très longtemps, c'est lourd, hein. c'est lourd. Encombrant. Voilà. Mais alors, comment allez-vous? Comment vas-tu, Slobodan Despot, ce matin, ce samedi matin frisqué de novembre?
Justement, parce qu'il est frisqué, je vais bien. Oui.
Donc, première information, Slobodan Despot aime le froid.
En général, oui.
Oui. Et c'est vrai que c'est compliqué de se vouvoyer hein, quand on se connaît depuis longtemps, mais oui. Où te trouve-t-on d'habitude le samedi matin? Hein, les Lausannois, on les trouve ici, dans les rues du marché. Mais les Valaisans?
Alors, À la belle saison, maintenant c'est hélas trop tard, mais on me trouve au Bayou.
Oh.
Au Bayou.
Au Bayou.
C'est dans un verger aride où l'on vend des légumes et des fruits et aussi des saucissons et du pinard et où je retrouve mon frère qui est là-bas et quelques amis quand on peut y être et on ravitaille un peu, on boit et on parlotte.
Oh bah, c'est à peu près ce qu'on fait ici, sauf
voilà.
Que c'est un peu plus.
C'est la même chose.
Voilà, quoi. Ouais. D'accord. Bon, ben, bienvenue. Vous n'êtes pas venu seul, effectivement. On va tout de suite présenter votre compagnon de voyage. Alors, c'est certes qu'un objet.
Oui,
et puis même un objet.
Le débat.
Oui. Certes, et même un objet de plastique, enfin de bakélite noir. Mais j'en parle comme compagnon de voyage parce qu'en fait, Slobodan, tu lui dois beaucoup à cet objet. Et dans le fond, il t'accompagne depuis quelques mois, voire quelques années. Montre-le bien, peut-être. Voilà. Lève-le bien, vous voyez. Donc, c'est un bon, vieux, gros téléphone noir en bakélite. Voilà.
Un objet que nos enfants prennent pour un ovni.
Voilà.
Je sais pas ce que c'est.
Mais ça va, tous ici dans la salle, on s'en souvient. Hein. Bon, alors, ce bon vieux téléphone, mais on va le mettre là. Pourquoi es-tu venu avec ce matin hein, donc, je demande à chaque auteur reçu ici au Lausanne Palace de venir avec un objet qui symbolise, dans le fond, son activité d'écrivain. Alors, ceux qui ont lu le roman, évidemment, mais qu'est-ce qu'on peut dire dessus, quand même?
Ben, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est le personnage principal du roman, c'est tout. Voilà, rien de plus.
Ouais. C'est vrai que c'est le personnage central. Il y a cette image frappante. Alors moi, donc le roman qui est en lice pour le prix des lecteurs de la ville de Lausanne, donc s'intitule Le Rayon Bleu. Et non pas le téléphone noir, ça aurait pu.
Ça aurait dû, à mon avis, mais enfin bon, voilà. Je vais pas polémiquer.
Ah. Non. Bon, d'accord, le rayon bleu n'est.
Parce que mon titre pour le livre, c'était le téléphone immobile. Téléphone immobile. Comment on dit téléphonie mobile, mais en couplement ailleurs, ça fait téléphone immobile. Et l'éditeur n'en a pas voulu.
D'accord. Et d'ailleurs, cette expression téléphone immobile, a donné naissance au roman. C'est, je crois, la première image à partir de ce mot téléphone immobile, que cette image qui est vraiment, mais pour moi, ce qu'on retient de ce roman, très beau, très mélancolique, très sombre. Un téléphone qui sonne dans une grande, vieille, belle maison, quelque part au cœur de la France. Un téléphone qui sonne régulièrement et personne qui répond.
Oui, voilà. C'est, je l'ai entendu sonner, j'ai vu à peu près où il sonnait. Et c'est de là que s'est développé le roman, comme à partir d'une graine plantée en terre.
Voilà. Alors on sait que ce coup de fil relie des gens quelque part en Russie et tente de relier des gens quelque part en France. Alors qu'est-ce qui a donné naissance à cette vision et qu'est-ce que tu as eu envie de construire autour de ce téléphone? Qu'est-ce qui ensuite a déterminé l'époque, le contexte, les personnages autour?
Je vais raconter des affaires de cuisine d'édition, ce que je n'aurais pas faire. Mais enfin, le roman est né littéralement d'un jeu de mots, de ce jeu de mots-là, parce que j'avais commencé à écrire un autre roman, et un jour j'étais allé voir mon éditeur responsable chez Gallimard pour lui dire que c'était un trop gros morceau pour moi, l'autre roman que j'écrivais, que c'était quelque chose pourquoi je devais mûrir un peu. Et il me fallait changer de mon fusil d'épaule. Il fallait que je fasse autre chose. Puis il me dit, non, mais attends, on attend ton deuxième roman. Si tu peux pas faire ça comme ça, changer en cours de route. Puis j'ai dit, mais ça ne fait rien. Écoute, tiens, dans la conversation, j'ai dit, mais je peux te faire un roman sur un téléphone immobile si tu as envie.
Et puis, le genre de pari fou qui voilà. Naissent dans les bureaux des éditeurs parisiens.
Voilà, exactement. Ouais. Et j'ai fait ça. Mais c'est comme, puis je me suis inspiré d'un autre truc. C'est vraiment de la cuisine. Je me suis inspiré du site internet d'un éditeur concurrent qui s'appelle Zulma. Et sur le site internet des éditions Zulma, il y avait quelque chose de formidable sur la page d'accueil. D'ailleurs, je pense que ça a évité toute vente à ce pauvre éditeur parce que la page d'accueil était formidable à elle toute seule. C'était un jeu littéraire. C'était un jeu littéraire qui était fait à partir d'un livre de Hubert Haddad. Où vous choisissiez des images, des situations, des bruits et des objets, et vous deviez, à partir de ces quelques éléments, broder une histoire sur le site lui-même. C'est un jeu. Et en fait, pour moi, ce téléphone immobile, à partir du moment où j'ai prononcé le mot, ça ne pouvait être qu'un vieux téléphone en bakélite. Un vieux téléphone en bakélite, ça sonne avec des belles sonneries, des cloches, ou plutôt des sonnettes. Et puis, si en plus vous l'entendez sonner dans un hall immense et vide d'une maison de campagne où personne ne vient répondre, c'est que l'intrigue est déjà là. C'est tout simple.
Oui, avec l'envie d'écrire dans le fond un polar, il y a un suspense. Hein, on va expliquer un peu en quoi consiste la quête du narrateur.
Pas trop. Non, pas trop quand même.
Mais il y avait l'envie d'écrire un polar.
Oui, en fait, oui, parce que je fais jamais les choses qu'on attend de moi. Alors. Chez Gallimard, il y a une collection noire et puis il y a une collection blanche. Alors c'est la série noire, c'est pour le polar. Et puis j'ai dit, je vais faire quelque chose avec une intrigue. Et mon éditeur me dit, oui, mais attention, tu vas tomber dans la série noire. Et je dis, c'est à vous qui ce sera à vous de décider. Alors j'ai frôlé le code, j'ai frisé le code du genre. Et en même temps, étant donné que c'était une histoire qui se développait dans le monde de la guerre froide entre les trois grandes puissances, donc les deux grandes et la mouche du coche, la France. Cette histoire m'a donné l'envie de rendre un hommage à l'un de mes auteurs préférés, qui est John le Carré. John le Carré, Robert Little, Simenon, qui a aussi écrit des romans très très énigmatiques, à cette époque-là. Ce sont des auteurs que je relis sans cesse et qui m'inspirent. Donc c'est un petit coup de chapeau, très très mince.
Oui. Alors ce téléphone est installé dans le château familial d'une famille qui s'appelle les Lémures, dans un petit village qui s'appelle Saint-Éleuthère. Mm-hmm. Saint-Éleuthère existe-t-il?
Je ne crois pas.
Ouais. En tout cas, cherchez. Enfin, remarquez, Google ne le connaît pas. Mais
vous prenez n'importe quel nom de saint et vous lancez sur Google, vous trouverez un village comme en France. Ouais. Tous les saints sont sur la carte de France.
Donc c'est une vaste propriété de campagne où se sont installés Herbert de Lémures et sa femme André dans les années 50. Donc ce Herbert de Lémures est un haut conseiller de l'Élysée, notamment sur les questions nucléaires, un militaire, vraiment un petit grand serviteur de l'État. Il connaît tout des coulisses de l'État et des services secrets. Et puis bon, il a été retrouvé mort dans son pied-à-terre parisien, officiellement suicidé, mais sa fille n'y croit pas. Et elle demande au narrateur, qui est une connaissance à elle, mais aussi journaliste, d'enquêter sur la mort de Herbert de Lémures. Donc, qui est cet Herbert de Lémures? Pourquoi? Comment est-il né? Que voulais-tu incarner avec cette figure de mystérieuse, comme ça, un peu sombre et forcément tragique, puisque au début du roman, il est mort de Herbert de Lémures.
Alors, d'abord, ce que certains ont cru voir, c'est évidemment une transposition de l'histoire de la mort de François de Grossouvre, mais ce n'est pas le cas. D'aucuns y ont vu la mort de Robert Boulin, ce n'est pas le cas. D'aucuns y ont vu le pauvre, comment il s'appelait là, le Premier ministre
Bérégovoy,
c'est pas le cas évidemment. Ce que ça signale, c'est qu'en France, il est extrêmement dangereux d'être ministre.
Bon. S'il y avait plusieurs sources d'inspiration possibles.
Voilà. Ouais. Beaucoup plus qu'en Suisse. Hein, parce que... Et puis d'autre part, ce personnage m'a de fait été inspiré par un petit peu, non pas biographiquement, mais la quête après la vérité m'a été inspirée par la famille de François de Grossouvre. Il se trouve que je suis ami avec son fils Henri, qui n'a jamais, comme tous les enfants, n'a jamais été satisfait des explications qu'on leur a données sur la mort de leur père. Dès que quelqu'un de très haut placé meurt dans des conditions qui ne sont pas totalement élucidées, ça donne lieu à des rumeurs, à des soupçons, à des histoires. Et des années plus tard, ça fait quoi, 30 ans maintenant, ou à peine moins, cette famille garde une espèce de mélancolie, comme la mélancolie des gens qui ont perdu un proche dont on n'a pas retrouvé le corps. Et je me suis dit que, je ne sais pas si eux ont organisé des enquêtes, mais je me suis dit que si une famille de ce type-là organisait, demandait à quelqu'un d'enquêter, cette enquête prendrait une dimension immédiatement autre que simplement judiciaire et policière.
Clairement. Donc, du coup, quel monde voulais-tu recréer? Alors, on plonge dans les années de la guerre froide, on plonge dans des milieux, effectivement, des services secrets, on plonge dans une France perçue par certains comme en train de décliner, comme tu dis, la mouche du coche, et non pas une des grandes puissances. Quel monde, au singulier, au pluriel, voulais-tu recréer à travers le personnage d'Herbert de Lémures?
Évidemment, Lémures, c'est celui sur qui on enquête, mais qu'on ne connaît pas, enfin qu'on connaît très peu. Et ceux qui sont encore là, qui sont vivants, sont des personnages qui peut-être sont plus loquaces quant à cet univers-là, à l'univers qui est créé dans le livre. Ce que j'ai voulu rappeler, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, la France a quand même fait un pari complètement fou, qui était de se mêler des grandes affaires du monde. Elle était sortie quand même défaite de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a basculé de la collaboration à la victoire avec un brio qu'on lui reconnaîtra. Elle a eu quand même un personnage providentiel qui était avec tous ses défauts, mais qui était le général de Gaulle. Et ensuite, j'ai cette impression, je suis beaucoup en France, je suis éditeur et auteur de langue française, donc français, j'ai l'impression qu'elle n'a pas pu endosser et porter cet héritage jusqu'à nos jours. Le costume était trop grand. Vous savez, c'est Henry Miller. Henry Miller a fait un livre prodigieux qui s'appelle Le Colosse de Maroussi, un livre de voyage en Grèce. Et à un moment donné, il a une illumination. Il descend dans le tombeau d'Agamemnon, le tombeau des héros grecs, où où leurs ossements ne sont même plus, mais enfin, on a encore gardé des boucliers, des épées, des éléments d'armure. Et tout d'un coup, il se rend compte que ces hommes, à cette époque-là, 25 siècles avant nous, portaient ces habits, soulevaient ces épées. Et non seulement ils soulevaient ces épées, portaient ces habits, mais encore avec leurs petites sandales, ils faisaient des marches de plusieurs milliers de kilomètres pour aller se battre. Et il dit, mais nous ne sommes rien, nous sommes des sous-hommes par rapport à eux. Et de même, quand vous voyez des gens comme De Gaulle, ou comme le général qui s'appelle Ingénieux dans le livre, et qui est un petit peu le jumeau du général Pierre-Marie Gallois, qui était effectivement le concepteur de la dissuasion nucléaire française, et que j'ai eu la chance de connaître, eh bien, vous vous dites, mais on a dégringolé de plusieurs étages depuis ces gens-là. C'était des gens qui avaient une passion, tu as parlé de la mienne, qui avaient une passion encore décuplée, qui avaient une connaissance, un savoir et un sentiment de l'histoire que nous n'avons plus. Voilà.
Tu parles de la quête du père. Ce livre est dédié à ton père.
Oui.
Pourquoi celui-ci ?
Ah ben, pourquoi celui-ci ? D'ailleurs, parce qu'évidemment, au cœur du livre se trouve la quête du père, entreprise du reste par une fille, mais enfin, peu importe. Et puis ensuite, parce que je n'aimerais pas que mon père meure sans que je lui ai dédié un livre. Voilà.
Oui.
Il est plus très jeune.
Et qui est ton père ? Quel père est-il ?
Ah ben,
c'est à ce genre de questions qu'on s'expose quand on écrit un livre et qu'à la page 2, c'est écrit « Pour mon père ».
Bah oui.
Voilà. Bah ensuite, en tant que lecteur, on est très curieux. Donc.
Eh bien, je le dirais en deux mots. D'abord, mon père ne serait jamais venu ici alors qu'il habite à deux pas, il est à Territé. C'est un homme timide, c'est un homme qui vit retiré. Et c'est un homme à qui il faut tirer les vers du nez à la pince pour apprendre qu'il a été un très grand sportif dans sa jeunesse, qu'il a plein de coupes et de médailles, qu'il a flanqué dans des cartons. Et c'est quelqu'un qui semble vouloir s'effacer de l'histoire. Et je me suis dit, quand même, il faut peut-être que ça le dérange que je lui consacre un livre, mais il mérite quand même cet homme qui nous a bien élevés, qui s'est beaucoup donné, qui avait beaucoup de talent également, qu'il a voulu enterrer. Eh bien, il faut quand même que quelqu'un lui rende hommage. Voilà, c'est pour ça que j'ai dédié le livre à mon père.
Bon, dédié, mais ta langue a fourché. Tu as commencé par dire consacré.
Vas-tu consacré?
Alors du coup, j'imagine que ça te traite dans la tête.
Peut-être oui, mais je suis pas encore assez. J'ai pas encore assez de métier pour ça.
Modeste. Une autre figure forte et presque paternelle dans le livre, c'est celle du président. Il y a effectivement comme ça une espèce de président que tout le monde surnomme Doud.
Doud Lanier, oui.
Doud Lanier, qui a l'air effectivement d'être un président qui tire les ficelles, qu'on soupçonne même effectivement d'être peut-être à l'origine de la mort d'Herbert Delémure. De quelle figure, singulier au pluriel, de président français de ces dernières décennies t'es-tu inspiré ?
Je crois que c'est pas très très difficile à deviner, un président cynique qui a des formules à l'emporte-pièce, qui s'en sort par des pirouettes dans de tous les pièges, qui est à la fois un président de gauche, mais avec des idées extrêmement réac. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, ou bien si.
aucune once d'admiration pour ce président-là.
Ben, c'est la quintessence du politique. On regrette toujours le précédent, hein, en France. Si on leur avait dit qu'un jour ils regretteraient Chirac. et maintenant, il y a des gens qui vous disent, ah, à l'époque Mitterrand, mais enfin Mitterrand faisait régner la terreur à cause de ses affaires privées sur tout Paris. Je veux dire, Jean-Édouard Dernallier a failli être tué parce que simplement il savait qu'il avait une fille illégitime et qu'il allait le révéler. Enfin voilà.
Donc
tout Paris le savait.
Donc Doud, évidemment, voilà. Ben, on sent que tu as une jubilation finalement à décrire ce monde-là. Comment as-tu travaillé ? As-tu fait des recherches ? T'es-tu replongé justement dans des affaires liées au service secret à l'époque du nucléaire, de la guerre froide, du rôle de la France ? Voilà. Comment as-tu avancé dans ce roman, Le Rayon Bleu ?
Alors, j'ai reçu un énorme coup de pouce à l'origine. Du général Gallois, que dans les années 90 ont publié à l'âge d'homme, donc Maison Suisse, à la base, parce que ses éditeurs habituels, comme Plon et autres, c'était quelqu'un qui était au cœur même du système français. Il était non seulement un héros de la Deuxième Guerre mondiale, aviateur qui a bombardé les Allemands, mais également, après la guerre, donc le concepteur de la dissuasion nucléaire, l'homme qui a permis à la France de développer le premier avion de ligne à réaction, qui était le Caravelle, et l'homme qui a inventé le Mirage, l'avion Mirage, parce qu'il travaillait pour Dassault après la guerre. Donc c'est quelqu'un qui a un impact sur l'histoire de France qui est considérable. Et qui, un petit peu comme mon père, s'est un peu retiré des affaires sous ses vieux jours. Il est mort à 100 ans. Et sous ses vieux jours, il a publié des livres qui étaient des livres un peu de mémoire et d'analyse de l'époque contemporaine, qui étaient très politiquement incorrects pour son milieu. Et donc, c'est nous, évidemment, qui nous sommes coltinés. Et où, justement, il parlait entre autres du déclin de la France, mais également du déclin à venir des États-Unis, du monde multipolaire qui n'était pas encore du tout visible à ce moment-là. C'était un visionnaire et un enfant. Il était très enfantin. Et puis alors, il m'a expliqué, parce que nous avons travaillé sur des livres sur cette question, nous avons réédité sa Géopolitique, qui est le traité de référence mondiale de la dissuasion nucléaire. Il m'avait expliqué la dissuasion nucléaire comme un jeu. C'est un jeu. Mais c'est un jeu dont l'enjeu, c'est pas trois jetons posés sur la table, c'est la Terre entière. Et si quelqu'un déroge à la règle, on est tous foutus. Et cette idée qu'il suffirait d'une anicroche, d'une légère tricherie pour que tout foute le camp, eh ben, elle me poursuit depuis que je connais cet homme.
Oui, effectivement, il y a des descriptions passionnantes de ce que c'est que la guerre froide, que c'est que de se tenir les uns les autres par la barbichette, mais avec des armes d'une puissance, chacune capable de détruire à elle toute seule la planète. Donc, qu'est-ce qu'à tes yeux la guerre froide et pourquoi c'était une période effectivement passionnante? Est-ce qu'on en est, dans le fond, ton roman laisse entendre qu'on n'en est peut-être pas sorti?
Ben, on n'en est pas sorti, ça c'est compliqué en fait. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir à l'heure actuelle les relations.
Simplifie.
Je simplifie, mais enfin, on voit que entre les États-Unis et la Russie, c'est pas vraiment l'entente cordiale. Que maintenant, en plus, les États-Unis viennent, mais ça on entre dans le détail, mais viennent de céder toute la zone pacifique de l'Asie et l'Asie à la Chine. Que c'est une puissance, en tout cas une des puissances qui est très malade et donc très agressive. Et puis que le contrôle de l'arme nucléaire, donc de l'arme du jugement dernier, n'est plus aussi, comment dirais-je, institutionnel, aussi stable et aussi rationnel qu'il l'a été durant la guerre froide. À l'époque, on a eu l'époque où nous sommes nés et qui s'est achevée avec l'effondrement de l'URSS, était une époque extrêmement stable. Les grandes puissances se regardaient en chien de faïence, ne s'agressaient pas elles-mêmes, elles opéraient par des moyens détournés, mais on restait très polis et très déférents l'un vis-à-vis de l'autre parce qu'on croyait à cet outil de pacification. Et pour le Gallois, qui était de nouveau un esprit enfantin, plus on avait d'armes nucléaires dans le monde, plus il y aurait la paix. C'est comme ça qu'il raisonnait. Et aujourd'hui, il n'en va pas ainsi. Ces armes sont, on sait même pas qui les possède. Les arsenaux, on en a même plus l'inventaire. Il y en a un peu partout. Des avions ont perdu des bombes au-dessus de l'Atlantique. On sait pas où elles sont. On est sur une poudrière. Et, étrangement, au moment où j'ai proposé le roman, où j'ai écrit, où j'ai proposé à Gallimard, plus personne n'en parlait. Et puis lorsqu'il est sorti, tout d'un coup, on s'est mis à s'affoler à cause de la crise de Corée, qui n'en est pas une en fait. Mais enfin, quand même, on a ressorti le sujet.
Oui. Mais en même temps, ce thème du nucléaire, le nucléaire, l'atome, tu en fais quelque chose d'assez poétique, et d'ailleurs sur lequel joue Gallimard, puisque quand le rayon bleu fait donc allusion à la lumière qui naît quand il y a, en tout cas, disons, la première scène du roman se passe en Russie, et c'est le premier personnage qu'on rencontre, c'est Kouzmine, un ingénieur qui a des années avant assisté à l'explosion d'un petit réacteur nucléaire dans une cité nommée la Cité de la Jeunesse Patrice Lumumba, donc une de ces villes russes improbables. Voilà. Et donc, il y a juste une scène d'ouverture. Effectivement, le rayon bleu donc fait allusion à la couleur vue juste avant de mourir par certains de ses collègues. Et quand on lit le rayon bleu, on pense aussi au rayon vert, on pense à Romer. Alors, ça n'a rien à voir, hein, Slobodan Despot et Romer. Mais malgré tout, ça montre qu'il y a une esthétique de l'atome et du nucléaire. Mais en même temps, la fiction, en tout cas en langue française, s'empare peu de ça, du nucléaire, de l'atome. On pense ici en Suisse à Daniel de Roulet, on peut penser à, je crois, Bernanos, qui l'a mis dans sa poésie, mais dans le fond, vous prouvez que c'est un beau thème pour un romancier.
Bah, c'est un thème qui est strictement métaphysique. On est, et demain on n'est pas. Voilà, demain, dans 30 secondes, dans 30 minutes, on peut ne plus être. Et pour quelle raison ? Et qui contrôle, quels sont les parcs qui tiennent le fil de nos vies aujourd'hui? Chez les Grecs, c'était des petites dames brodeuses, tricoteuses. Aujourd'hui, ce sont peut-être des ingénieurs. On vient de perdre quelqu'un qui est l'un des personnages les plus importants de toute l'histoire humaine et dont personne ici ne sait le nom. Moi-même, je m'en souviens à peine. C'était Stanislav Popov. Quelqu'un a entendu parler de Stanislav Popov? Un. Stanislav Popov était un officier de veille en URSS dans les années 80, qui était dans le personnel de surveillance de ce qu'on appelle la main morte. La main morte, c'est le dispositif de riposte nucléaire automatique qu'entretiennent les grandes puissances et qui est nécessaire pour la dissuasion. C'est-à-dire que si l'automatisme fait que si vous attaquez l'autre, vous savez que on n'a même pas besoin d'un Yeltsin ivre qui ne sait pas sur quel bouton appuyer. Le truc, il va se déclencher tout seul. Enfin, en principe, tout seul. Il y a juste des gens qui peuvent encore tirer un frein quelque part. Et ce Popov, qui était à ce moment-là un lieutenant, je crois, ou un lieutenant-colonel, qui était de veille à 3h du matin, voit arriver une salve de missiles américains sur la Russie. Donc, normalement, le système de riposte s'enclenche tout seul. Et donc, la Russie s'apprête à anéantir l'Amérique, donc la planète. Et il se dit, non mais... Et il fait un raisonnement humain, c'est-à-dire, mais ils n'ont aucune raison en ce moment. Il y avait toute une série d'indices qu'une intelligence humaine peut interpréter, mais pas des robots, qui ont fait qu'il a arrêté la riposte en se disant, en prenant sur lui, la responsabilité de se dire, non, c'est une fausse alerte. Et ça s'est avéré une fausse alerte. Donc Monsieur Stanislav Popov, qui vient de mourir dans son petit appartement d'une pièce, est l'un des personnages les plus importants de l'histoire de l'humanité. Il nous a tous sauvés. Extraordinaire, hein ? Mais je ne l'ai pas mis dans le roman.
Voilà. Ce sera peut-être l'objet d'un autre roman. Alors, vous êtes venu non seulement avec un objet, mais avec un morceau de musique. Comme chaque auteur qui vient ici parler de son livre et de son univers. Donc, 2 minutes 40 maintenant pour méditer sur la vie et la mort de Monsieur Popov, avant que vous nous expliquiez pourquoi vous êtes venu avec cette musique.
C'est très loin de tout ça.
Hold it a little while. I think I see my friends coming, riding many a mile. The things you get, some silver, you get a little gold. What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You know that we're too damn poor. Keep me from the gallows pole. Thank you.
Bon, ça donne envie de secouer sa crinière, hein. Voilà. Alors, Slobodan Despot, qu'est-ce que c'est et pourquoi?
C'est un morceau de Led Zeppelin.
Ouais, c'est du Led.
Ah oui, pardon.
Non, non, parce que nous sommes nombreux ce matin. Ah oui. Donc c'est du Led Zepp, évidemment, et ce morceau s'appelle
Gallows Pole, c'est-à-dire la potence.
Alors pourquoi Led Zepp?
Alors pourquoi? Parce que d'abord ce morceau figure sur la face, c'est le premier morceau de la face B du troisième disque de Led Zeppelin 3, que étant enfant, préadolescent, 13 ans, j'ai acheté sous forme de cassette chez un disquaire en Serbie, en Yougoslavie à l'époque, donc en 1980, sous le communisme. La Yougoslavie avait cet avantage sur les pays du bloc socialiste qu'elle pouvait importer toute cette culture occidentale. Et j'avais jamais rien entendu du rock'n'roll, etc. Et lorsque j'ai entendu Led Zeppelin 3, cette cassette, j'ai changé d'univers. C'était un choc qui dure encore dans toute ma vie. Ce morceau, en l'occurrence, qui s'intitule La Potence, c'est l'imploration d'un homme qui est condamné à mort, qui est sur la potence et qui dit attends bourreau, attends quelques secondes, je crois que je vois ma sœur qui arrive et qui t'apporte un peu d'or pour me racheter. Et puis après c'est son frère qui arrive avec un peu d'argent, mais en fait ils n'arrivent pas, il finit pendu. Et c'est évidemment d'une adaptation moderne, rock 1970. D'un morceau qui est vieux comme le monde, c'est un chant traditionnel, comme la complainte de Mandrin, qui est un peu la même histoire, mais en France, et qui est à la base aussi, qui est le mot de passe du rayon bleu. Et cette musique a été exportée avec les colons vers les États-Unis. Elle est entrée dans le folklore. Dans le folk américain, avec des interprètes comme Led Belly ou même des noirs, c'est entré dans le blues et c'est revenu en Angleterre et vers nous au travers d'un groupe anglais dans les années 70. C'est la plus belle illustration de la continuité de la culture et de la poésie. Et moi, je suis pas très, j'aime beaucoup la musique sous toutes ses formes, mais quand je compare ça à la pétrification de la musique classique, je trouve qu'il y a beaucoup plus de sève là-dedans. Voilà.
Est-ce qu'on peut écrire en écoutant Led Zepp?
Oh ben non seulement on peut, mais on doit. Et si possible, en devenant sourd.
Ouais. Alors là, ben, on comprend comment une certaine musique est entrée dans ta vie, préadolescent. Et alors, comment es-tu tombé dans la marmite de ce qui est lecture, écriture et tout ce monde-là, avec un papa, si on comprend bien, sportif?
Oui, il était... Bon, sportif, c'est pas grave, mais il était psychologue. Et...
Ah bah, peut-être qu'il fallait aussi commencer par dire ça.
Non, mais okay. Bref. Je suis tombé dedans par paresse, évidemment, parce que de lire beaucoup de livres, ça vous donne des tas d'excuses pour ne rien faire d'autre. Ouais. Et vous êtes dispensé de corvées de cours.
Alors, si on vous laisse le faire, donc il faut avoir la chance d'avoir des parents.
Oui, mais nous étions des enfants gâtés. Voilà. Oui, oui. Ouais. Et on me laissait lire. Je me souviens d'ailleurs que je lisais de manière indiscriminée, boulimique, quand j'étais jeune. Essentiellement, je pense quand même par paresse. Et un jour, je suis tombé sur La Montagne Magique de Thomas Mann. Et puis, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? J'avais peut-être 11 ou 12 ans. C'était dans la bibliothèque parentale. Et puis, vous savez, à l'époque, les gens achetaient encore ces bibliothèques complètes, des séries complètes de grands classiques, reliées, tous la même chose. Et puis, personne ne les ouvrait, ça s'est ramassé à la poussière. Puis moi, j'étais le seul idiot qui se disait, c'est peut-être des livres et pas seulement des cale-portes. Et donc, j'ai ouvert La Montagne Magique et je me souviens de l'avoir lu d'une seule traite. Ça fait 800 pages quand même. J'ai lu pendant 20 heures, en tout cas. Et je devais avoir 11 ou 12 ans. Et je ne pouvais pas me détacher de ce livre, alors que c'est vraiment pas fait pour les enfants. Mais c'était tellement prenant, c'était tellement un tel univers qui se passe évidemment, comme vous le savez, dans les sanatoriums ici en Suisse. Que ça m'a comme Led Zeppelin 3. Je me le suis passé en boucle en quelque sorte.
Ouais. Donc tu vivais dans une maison entourée de livres. Il y avait des livres partout.
Comme pas plus qu'ailleurs, mais mes parents n'étaient pas particulièrement bibliophiles ou grands lecteurs. Ils étaient lecteurs. Tout le monde était lecteur. Les gens qui étaient qui avait de l'instruction, qui était universitaire, était toujours lecteur. Et d'ailleurs, ça me déstabilise toujours d'arriver dans une maison où il n'y a pas de livres, ou pas beaucoup. Mmh. Il y avait des livres, mais pas énormément. C'était pas des grands érudits.
Ouais. Donc, tu es arrivé en Suisse tout jeune enfant, je crois à l'âge de 7 ans, c'est ça, en 73?
En 73,
voilà,
6,
donc
7
6 ans.
Ouais.
6, 7 ouais, ans, voilà. Tu es né à Sremska Mitrovica, comment on prononce?
Sremska Mitrovica.
Voilà, c'est beaucoup mieux. Encore une fois.
Sremska Mitrovica.
Voilà, donc actuelle Serbie, en ex-Yougoslavie. Oui. Donc, alors là, par contre, tes parents sont venus évidemment au début des années 70, donc bien avant le début du commencement de la guerre de l'ex-Yougoslavie. Mais quel souvenir as-tu de ton arrivée en Suisse? Il y a eu un changement de langue, évidemment. Ta langue maternelle est le
serbo-croate.
Le serbo-croate.
J'ose le dire parce que.
Voilà. Donc, tu es né d'un mariage dans le fond mixte.
Oui.
Avec le papa.
Mon père est à moitié croate, ma mère est serbe.
Voilà. Et du coup, quel choc ça a été l'arrivée en Suisse?
Ah, immense. Le premier choc, c'était, je le raconte quelque part, c'est que ils m'ont amené. Mes parents étaient arrivés un peu avant nous pour préparer l'arrivée de la famille. Et puis ils m'ont amené en voiture en Suisse. Et quand j'ai vu, nous on vient d'une région de plaine, mais plaine de chez plaine, hein, à fond de mer d'ailleurs. Et quand j'ai vu arriver les montagnes bleues au nord de Milan, je me suis dit, mais papa, tu freines, on va taper là-dedans, on va jamais franchir ça. Après, j'ai conçu un amour infini pour les montagnes, mais enfin, au début, c'était vraiment terrifiant. Puis un autre souvenir, évidemment, c'est cette odeur. Enfin, d'abord, on a vécu dans une villa, puis ensuite, on a vécu dans des immeubles. C'était cette odeur de formol, ou enfin de propreté qui règne partout en Suisse. Je me disais, mais c'est incroyable, on est partout à l'hôpital.
Ouais. Alors depuis, tu es arrivé en Valais, tu as grandi en Valais, études, oui. Saint-Maurice, etc. Oui. Et tu en as conçu un attachement très vif pour le Valais. Tu as habité à Vevey, mais maintenant tu habites de nouveau en Valais, au point d'avoir écrit d'ailleurs un très beau livre qui s'appelle Valais mystique, 24 itinéraires spirituels, qui est vraiment une plongée dans différents vals, montagnes, enfin dans des coins très reculés du Valais, mais qui tous ont une valeur mystique ajoutée. Parle-nous de ton Valais. Comment tu vois cette région et pourquoi tu es aussi attaché?
Ah ben d'abord, le Valais, c'est pas simplement un canton, c'est un pays entre la Suisse et l'Italie. Mmh. Il y a un passeport valaisan, je pense que certains l'ont. Ensuite, évidemment, il y a dans ce pays encore de vastes survivances archaïques comme l'histoire du pendu là. Il y a une mentalité taillée à la serpe, on le sait très bien, mais ça, ce sont des lieux communs. Et puis il y a ces montagnes. Et il y a tous les souvenirs et les vestiges qu'elle colporte. Aujourd'hui, ne serait-ce que ceci, vous retrouvez dans les hauts d'Arola, sur le glacier du Mont Colomb, comme le glacier est en train de fondre, on a retrouvé récemment des roues de charrette. Et là, tout d'un coup, ça nous apprend qu'au XIIIe siècle ou au XIVe siècle, cet endroit était carrossable. Donc on est encore loin du réchauffement climatique qu'ont vécu les gens du Moyen-Âge. Et ça, c'est tout simplement en explorant les montagnes qu'on apprend. On apprend des tas de trucs, c'est très mystérieux les montagnes. Et puis en plus, je pense qu'elles sont habitées, au sens où les montagnes sont le lieu des esprits.
Donc après t'avoir effrayé, les montagnes, tu ne t'en passes plus désormais.
Ah ben voilà. Oui, très difficile. Voilà, oui.
Quel lien, quel attachement à ta ville de naissance? Qu'est-ce qu'il en reste en toi finalement? Et avec quel bagage viens-tu justement de cette région comment s'appelle la région? La Voïvodine?
La Voïvodine, oui. Voilà, oui. Donc c'est une région plate, une région qui produit du vin, qui est peuplée de gens qui sont notoirement bon vivants et même excessivement, et qui sont débonnaires, qui sont pas agressifs. Et en particulier, ma ville natale a ceci de particulier. Aujourd'hui, c'est une toute petite ville sinistrée, d'où qu'on préfère fuir. Mais à une époque, au IIIe siècle, elle était quand même la capitale de l'Empire romain, sous le nom de Sirmium. Les quatre empereurs qui étaient juste après Julien l'Apostat étaient de Sirmium, à une époque troublée pour l'Empire. Et il se trouve que sous ma ville natale, il y a la ville romaine. Une toute petite partie en est déterrée, il y a le palais impérial est déterré en partie, il reste un hippodrome, il reste des temples, il reste des grandes villas, et c'est probablement en Europe le plus grand site archéologique encore inexploré. Et depuis mon enfance, ça m'a fasciné d'être littéralement assis quand je suis là-bas sur toute l'histoire de de notre continent qui est dans le sable. Voilà. Mmh. Peut-être que je ferai un livre là-dessus.
Ouais. Justement, écrivain, après avoir été éditeur, chroniqueur, après avoir fait des tas d'activités dans le domaine du livre, de l'écriture, de la presse, depuis Le Miel, paru chez Gallimard il y a 3 ans, c'est ça, tu es écrivain. Voilà, une étiquette en plus. Alors, qu'est-ce que ça change et comment tu vois ton métier d'écrivain? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie depuis l'apparition de ce premier roman, Le Miel?
Ah, ça a tout changé. Parce que avant, j'étais éditeur, j'étais dans l'édition. Puis tout d'un coup, je suis devenu celui qui, je n'étais plus celui qui porte des cartons pour les auteurs, mais j'étais l'auteur. J'étais plus celui qui encaisse des chèques qu'on ne peut pas encaisser. J'étais plus celui qui organise des événements foireux parce qu'on a raté la date. Là, j'arrive, je laisse mon sac au vestiaire. Je dis, ah oui, je suis l'écrivain, où est-ce qu'on signe? Ça change énormément.
C'est agréable.
C'est très agréable. Mais c'était aussi, il faut bien le dire, en tout cas avec le premier roman, et c'était extrêmement difficile de se hasarder à faire ça parce que j'ai travaillé toute ma vie dans l'édition. Le premier roman est sorti quand j'avais 47 ans. C'est pas un âge pour faire ça. Et puis quand vous êtes dans l'édition et que vous avez vu passer des milliers de livres et encore plus de milliers de manuscrits sous vos yeux, il y a un petit peu de réticence et un petit peu de scrupule à encore consommer du papier avec votre propre graphomanie. Donc il faut vraiment être très sûr de son coup lorsqu'on s'y lance.
Oui, mais c'était forcément un vieux rêve.
Non, je crois. Oui, un vieux rêve très abstrait. Tout le monde rêve d'être écrivain, poète, cinéaste, astronaute ou hôtesse de l'air. Que ceux qui n'y ont pas pensé me le disent. Donc, ouais. Évidemment, je veux dire, comme disait Carles, le grand anarchiste américain, regardez les hobbies des gens. Ouais. Personne n'est agent d'assurance dans ses hobbies. Ouais. Donc
il y a un moment pour tout. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, c'était le moment d'écrire Le Miel et puis d'aller tellement jusqu'au bout de la démarche que chez Gallimard.
C'est le hasard. Enfin, le hasard, c'est pas le hasard.
Non, c'est vrai. Le roman est nul, mais c'est tout à fait uniquement par hasard que Gallimard a accepté de le publier. Ouais.
Oui, c'est du réseautage. Ouais. Puisque on est à Lausanne, je peux le dire. En fait, c'est grâce d'ailleurs à l'état de Vaud que je suis devenu écrivain, très concrètement, parce que à l'époque, c'était dans les années 2007-2008, donc il y a très longtemps de maintenant, j'avais créé ma propre maison d'édition. Évidemment, quand vous créez une maison d'édition, vous n'avez plus un rond. Et puis quelqu'un, je crois que c'était mon père d'ailleurs, m'avait mis sous le nez une annonce qu'avait passé le service culturel de l'État de Vaud, disant on offre des bourses d'écriture. Puis mon père m'avait dit c'est plus sûr que de vendre tes bouquins, essaye de décrocher une bourse d'écriture. Puis je dis mais avec quoi? Puis il dit tu trouveras bien une histoire. Alors j'avais cette histoire qui me trottait dans la tête, qui était celle du Miel, qui est une histoire vraie en plus. Et donc je savais qu'il fallait en faire quelque chose, il fallait pas qu'elle se perde, mais est-ce que j'allais en faire un livre documentaire? Est-ce que j'allais proposer un scénario à un cinéaste ou à un dessinateur de bande dessinée? Je ne savais pas. Puis je me suis dit, je vais faire le synopsis, je vais l'envoyer au service culturel, puis advienne que pourra, de toute façon, on ne compte sur rien. Puis quelques mois plus tard, on m'appelle, c'était Madame Varidel, que tout le monde connaît, qui m'appelle, j'ai quelque chose à vous dire, puis je dis, non mais attendez, j'embarque dans un avion, je vais devoir couper... je partais pour l'Inde, sans un sou en poche. Puis il me dit, non, mais ça va être rapide. Oui, mais dépêchez-vous, là, l'hôtesse de l'air va. Enfin, bref. Vous avez la bourse. C'était quand même dans les 10 000 francs. Je dis, mais quelle bourse? Vous me parlez de quoi? Mais celle pour laquelle vous avez postulé, enfin, votre bourse d'écriture. Et puis, ma seule réaction, c'était, vous payez quand? Et elle a dit, tout de suite, si ça vous arrange. Ah, ça m'arrange très bien. Et après, il a fallu rendre la copie. Et j'ai rendu la copie, puis après, c'était pas eux qui allaient le publier, donc il fallait que je l'envoie, que je le fasse publier, et j'ai eu le sentiment que se publier soi-même, je me suis publié moi-même. Valet Mystique, c'est aux éditions Xenia, parce que, comme ça, je garde les droits d'auteur et tout pour moi.
Ouais, les livres de chronique aussi.
Les livres de chronique, ça va, mais on ne se publie pas en tant que romancier. C'est comme de dire soi-même, celui-là est un type très bien. Lisez-le. C'est pas possible. Donc c'est trop subjectif, donc vous devez donner un roman à quelqu'un d'autre à publier. Et alors j'ai envoyé à des éditeurs, certains que je connaissais, qui étaient des amis, et d'autres que je ne connaissais pas, et puis ceux qui étaient des amis ne m'ont même pas répondu. Et ceux que je ne connaissais pas m'ont répondu. Donc voilà, c'est comme ça que je suis entré chez Gallimard. Mais comme n'importe qui, en envoyant un manuscrit.
Est-ce que pour toi, c'est une nouvelle vie? Est-ce que désormais, ben, d'ailleurs, tu as annoncé que tu arrêtais de diriger Xenia, que Marco, ton frère, allait reprendre en partie une activité. Ça veut dire que finalement, éditeur, c'est bon, t'as donné, et maintenant, auteur.
Ben, évidemment. On tourne autour de l'édition comme un chat autour du pot de lait. On peut pas se détacher, ça va de soi. Non, c'est simplement que formellement, ça me mettait en porte-à-faux avec mes auteurs, que d'être en même temps leur éditeur et moi me faire éditer par quelqu'un d'autre et développer une œuvre. Parce que bon, on peut occasionnellement écrire un truc et puis le publier ailleurs, mais j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que je poursuive ce travail de romanesque qui n'est pas facile du tout. Et j'avais, en écrivant, la sensation que je volais toujours du temps à cet autre aspect de mon travail. Et c'était une situation un peu intenable. Voilà.
Donc l'envie maintenant, c'est d'en écrire un autre et un autre.
Bah oui, j'en ai trois ou quatre. Enfin, j'en ai quatre qui sont à divers stades. Je fais comme les lapidaires. Il y a une stèle ici, un monument fini là. Enfin,
voilà. Bah, tu as fêté tes 50 ans cet été.
Oui.
Qu'est-ce que tu te souhaites pour cette deuxième partie de vie qui commence? Donc, il y a les livres, mais quoi d'autre peut-être?
Ce n'est que le deuxième tiers-temps. Hein. Et des livres, et puis peut-être faire ce que Carl Gustav Jung recommandait aux hommes de 40 ans, construire sa tour, construire une maison de ses propres mains. Bon, j'ai 50 déjà passé, mais aujourd'hui on est beaucoup plus immature qu'à l'époque, donc j'ai encore le temps.
Ouais. Et tu as déjà posé la première pierre de ta maison?
Très symboliquement.
Ouais. Dans un village du Valais.
Elle est là, mais elle flotte encore et sait pas où se poser.
D'accord. Tu viendras nous le raconter. Je te propose qu'on ouvre la discussion au public pour des questions ou des remarques à Slobodan Despot. Avant qu'on passe évidemment au sud des réjouissances. Levez juste la main, comme ça je vous passe le micro, comme ça tout le monde entend bien. Alors, qui se lance pour...
Je crois que j'ai tout dit.
Gentil, mais peut-être intimidant. Voilà.
Non, mais je dévore pas les petits-enfants.
C'est peut-être pas tellement avec votre livre, mais moi je me rappelle quand j'étais jeune, il y a... Oui, quand j'étais jeune, on parlait du téléphone rouge entre le président américain et le président russe. Est-ce que ça a à faire aussi avec le téléphone noir qui est au fond contre? Parce que je ne sais pas si ça vous a aussi inspiré dans votre roman.
Alors effectivement, il existait le téléphone rouge, qui a été d'ailleurs employé, me semble-t-il. Mais là, dans mon roman, j'ai eu une autre idée, une intuition, qui en plus, après, s'est avérée conforme à l'histoire. C'est qu'il y avait des gens qui étaient dans les structures, soit de la défense, soit du pouvoir, soit dans les structures scientifiques, parce que l'arme nucléaire implique beaucoup de travail scientifique, et qui, se méfiant du pouvoir politique, auraient organisé ce qu'on appelle dans ce livre une double dissuasion, c'est-à-dire un deuxième téléphone rouge, mais qui aurait été officieux et entre des gens qui ne sont pas ceux tout en haut, mais ceux qui sont en mesure de bloquer l'affaire. Et puis après, c'était une fantaisie de romancier. Mais j'ai reçu un courrier que je garde précieusement de quelqu'un qui était un officier du renseignement dans cette époque-là, qui m'a attesté que ce réseau-là existait. Voilà. Comme quoi, on a un sixième sens quand on est écrivain. Voilà.
Qui d'autre? Jamais le micro. Voilà.
Vous avez glissé dans la conversation tout à l'heure, contrôle de l'arme nucléaire, donc contrôle du jugement dernier. En lisant le livre, moi j'ai dans le fond pas eu tellement cette sensation de peur, mais ça me donne une bonne idée peut-être d'avoir peur du jugement dernier. En même temps, est-ce que c'est actuel d'avoir peur du jugement dernier? C'est plus Moyen-Âge que Led Zeppelin. Non.
Mais Led Zeppelin, c'est Moyen-Âge. Hein. Mais le temps n'existe pas. Très bonne question. D'abord, si ce que nous craignons devait arriver, on n'aurait pas le temps de se faire juger. Ça va très vite. Ensuite, effectivement, je pense que pour l'immense majorité des gens de notre époque, la la puissance de jugement ou la puissance d'anéantissement que nous nous sommes donnés nous-mêmes, je parle des armes, mais nous nous sommes donnés même la puissance d'altérer le développement de notre propre espèce par la manipulation génétique, nous fait nous prendre nous-mêmes pour Dieu. Donc, à la rigueur, pour l'immense majorité des gens, Dieu est une option désormais tout à fait superflue. Nous sommes devenus Dieu nous-mêmes. À mon avis, c'est ce qui est le plus effrayant, parce que avoir un Dieu hypothétique même, auquel on croit ou on ne croit pas, mais qui est en dehors de nous, ça nous rend quand même, nous, moins dangereux.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'auteurs qui cherchent des éditeurs, que c'est pas facile et tout. Et pourquoi vous auriez pu quand même vous éditer vous-même ?
Non, j'ai dit pourquoi. Parce que si vous publiez un livre documentaire qui n'a pas de prétention artistique, le Valet Mystique, c'est des promenades. Bon, ben, vous dites, objectivement, c'est un livre qui s'inscrit dans une utilité. C'est bon pour les promeneurs, c'est bon pour les touristes, pour les rêveurs, etc. Mais un roman, c'est éminemment subjectif. Si je me publie moi-même en tant que romancier, ipso facto, je dis c'est un bon roman. Sinon, je le publie pas. Et je n'ai aucun critère d'utilité, je n'ai qu'un critère de qualité. Je ne peux pas faire ça pour moi-même, je ne peux pas me promouvoir moi-même. Je veux dire, notre maison d'édition est très petite. Chez Gallimard, évidemment, vous avez des éditeurs au sens qui accompagnent des auteurs qui publient eux-mêmes des romans chez Gallimard. Mais ces romans seront pris en charge par d'autres personnes qu'eux. Dans une petite maison, vous faites tout. Donc vous êtes en même temps, vous êtes le juge et le condamné. Enfin, le juge et le jugé. Donc ça va pas. Le juge est parti, voilà. Oui. Ah, mais ils écrivent pratiquement tous. Mais, comme je vous dis, donc madame demandait, mais enfin, chez Gallimard, il y a les éditeurs de chez Gallimard écrivent aussi des livres, ce qui est vrai. Mais même quand ils écrivent leurs livres, ils font la même chose que n'importe qui. Ils passent par le comité de lecture. Donc, et leur père chez Gallimard, il y en a, je sais pas, une douzaine de lecteurs. Ils vont les juger comme n'importe qui. On a des notes. Il vous donne des notes. Et puis, il y en a quatre, vous devez avoir quatre notes passables pour être édité. Donc, c'est autrement. Mais j'en ai pas chez moi, dans ma propre maison. Voilà. Ben non.
Voilà. Je vous amène.
Et si vous n'aviez eu aucune réponse positive d'aucun éditeur, vous auriez fait quoi ?
Ben, je me serais dit, c'est qu'il faut faire autre chose.
Merci.
Franchement.
Est-ce que je peux passer ? Oui.
Oui, bonjour. Je sais que vous avez été conseiller personnel d'Oscar Preisinger de 2013 à 2017. Est-ce que ça ne vous aurait pas donné envie, en fait, d'embrasser une carrière politique ?
Moi, certainement pas. Quand on a vu la politique par le côté coulisses, non, ça ne donne pas très envie, non ? Non, non. D'ailleurs, je suis très heureux d'être parti dans les eaux de la littérature. Ça n'a rien de personnel. Hein. Je pense que quel que soit le ministre, quel que soit le milieu, la politique, il y a beaucoup plus de fiction dans la politique que dans le roman. Et en plus, la fiction romanesque doit être crédible, ce qui n'est pas le cas de la fiction politique.
À quand un roman là-dessus ?
Oh !
À qui est-ce que je peux passer encore le micro ? Voilà. J'arrive.
Salut, bonjour.
Bonjour.
Salut. Est-ce que tu as un rite de travail le matin je veux dire, certains auteurs, ils sont maniaques, ils se lèvent à 6 heures, ils bossent jusqu'à 10, 11 heures, et puis ils vont se balader, et puis c'est tous les jours comme ça. Et c'est un enfer pour ceux qui vivent avec eux, parce que le week-end, faut pas les embêter, faut pas faire ci, ils sont hyper, bref, t'as un rite particulier par rapport à quand tu te lances dans un roman?
Ah, ça, c'est une question extrêmement douloureuse. Parce que j'aimerais beaucoup avoir un vrai rythme de maniaque qui emmerde tout son entourage, et j'y arrive pas. Je suis pas encore assez reconnu comme écrivain pour qu'on puisse me passer ça. Et donc j'écris. En fait, je fais une chose qui n'est pas très professionnelle, c'est que j'écris quand j'ai le temps. Et quelquefois, pour avoir le temps, par exemple, je prends le train, j'ai un abonnement général en Suisse, je fais le tour de la Suisse, ou bien je vais jusqu'à Friedrichshafen, en face de Constance, avec en plus le bateau, et je prends mon temps pour lire, pour écrire. Mais c'est totalement hors agenda. Alors que effectivement, j'ai édité beaucoup d'écrivains, j'ai travaillé avec eux, et la plupart avaient des manies. D'ailleurs, chacun la sienne. Hein. Comme Jean Jaldas, par exemple, avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui ne pouvait écrire que dans les bistrots, avec ses petits carnets, et il commençait à 6h du matin. Et je me suis même penché, j'ai beaucoup étudié cette question, et quelqu'un a fait un livre, un Américain a fait un livre sur les manies des artistes. La plupart des artistes qui ont des manies sont des écrivains, quand même. C'est absolument hallucinant. C'est hallucinant. Ce sont des. S'ils n'avaient pas l'alibi d'être écrivains, on les aurait flanqués à l'asile. Hein. Ben, par exemple, Georges Simenon, qui écrivait très vite, mais avec des périodes où il ne faisait rien, il fallait qu'il s'enferme dans une pièce avec où il y avait uniquement sa machine à écrire, un pot de 40 crayons taillés très pointus et un pot de pipe bourré. Il touchait jamais au crayon. Pourquoi il fallait le pot de crayon? Mystère. Etc., etc., etc. Il y a encore bien plus bizarre que ça.
Quelqu'un d'autre? Question, remarque? Alors, une tout au fond, j'arrive.
Ah, et tu marches beaucoup, là.
Il y a à peu près 30 ans, je pense, Chomsky disait déjà, on était à minuit moins 5. Il y a quelques mois, il a dit minuit moins 2. Alors, vous semblez dire qu'on est presque à minuit.
Si j'extrapole le calcul que fait Chomsky, nous avons encore 20 ans.
Nous avons encore 20 ans.
3 minutes pour 30 ans, ça veut dire que 2 minutes, c'est 20 ans. Ça va, j'aurais 70, j'aurais vécu.
Sur ces paroles optimistes, je propose qu'on aille se consoler. Alors la suite de la matinée se poursuit à l'étage au-dessus, où nous allons suivre Slobodan Despot, dont les livres vont être portés effectivement par une libraire, puisque désormais Slobodan Despot, auteur, ne fait qu'accompagner ses livres. Non, alors effectivement, nous nous retrouvons au premier étage pour alors les dédicaces. Effectivement, du livre donc Le Rayon Bleu, paru chez Gallimard ce printemps, signé Slobodan Despot. La librairie Basta est venue avec deux autres livres, c'est l'édition Poche du Miel. D'ailleurs, la couverture plaît beaucoup à Slobodan, enfin je plaisante. On dirait un recueil de recettes pour le goûter. Hein. Mais en fait, c'est la couverture de son premier roman, de la version Poche du Miel. Donc ceux qui ne l'auraient pas vraiment, ne repartez pas sans. Et puis, nous avons également, heureusement, parce qu'il en reste très peu, Le Valet Mystique, ce livre fantastique qui invite à balader dans des coins, mais que personne connaît du Valais. Et puis, effectivement, paru aux éditions Xenia, il y a presque 10 ans, non ? 2009. Voilà. Il est très, très pressé, hein, donc, voilà. Donc, dédicace et apéritif dans la rotonde, vraiment, où on était le mois dernier pour ceux qui étaient avec nous. Apéritif, donc, gourmand. Merci au Lausanne Palace pour son accueil. Les lieux sont fantastiques. Merci à la librairie Basta pour venir accompagner chacune de ces rencontres avec les livres. Et puis, nous pouvons nous retrouver, pour ceux qui le souhaitent, avec Haute-Seigne. Ça sera le 9 décembre prochain, ici même dans ces murs. Slobodan Despot, merci infiniment. Merci. Voilà.